Une nouvelle édition de l'économie en question. Nous proposons ce matin à nos invités un examen de l'état de l'économie française. Échange, confrontation d'analyses pour tenter d'y voir un peu plus clair tant les informations paraissent contradictoires, brouillées, il est vrai, par les commentaires politiques à un an de l'élection présidentielle. Et alors que les blocages apparus lors de la bataille autour de la loi travail laissent craindre pour le moins un ralentissement, si ce n'est un arrêt, des réformes dans la dernière année de ce quinquennat. Plusieurs chiffres ont récemment confirmé que la France, comme nous l'a dit le président, va mieux. Le chômage a reculé nettement en mars, 60 000 personnes en moins, tandis que le produit intérieur brut progressait de 0,5 points lors des trois premiers mois de l'année, rendant possible l'objectif du gouvernement d'atteindre une croissance de 1,5% en 2016. Et puis le volume d'affaires, des affaires augmente aussi. À quoi il faut tout de suite opposer 600 000 chômeurs supplémentaires en 4 ans, des déficits publics toujours importants, une forte fiscalité préjudiciable, nous dit-on, à la compétitivité française, ce que ne manque pas bien sûr de rappeler, entre autres critiques, les prétendants à l'élection de 2017, convaincus eux du naufrage français et déterminés à engager des programmes de toute autre nature. C'est de tout cela que nous souhaitons parler ce matin. Présidence Hollande versus programme des candidats 2017, où en est et où va l'économie française ? Et avec nous ce matin, Agnès Benassi-Quéret, économiste qui est présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, je le rappelle, Conseil d'analyse économique CAE, placé auprès du Premier ministre et qui réalise, en toute indépendance, c'est dans les textes, des analyses pour le gouvernement et qui les rend publiques surtout. La toute dernière vient de paraître. Agnès Benassi qui est aussi professeure à Paris 1, à Benjamin Coriat, donc professeur d'économie, Université Paris 13, membre des économistes atterrés. Atterré par la marche du monde et tous engagés pour d'autres politiques économiques, qui nous le redira sans doute. Enfin, Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, organisme indépendant lui aussi d'évaluation des politiques publiques. Trois organismes ou trois associations, si vous le préférez, qui ont fait paraître de très nombreuses notes et recommandations au cours de ces quatre années. Ont-ils le sentiment d'avoir été écoutés ? C'est aussi de cela que nous allons parler avec eux. Et puis en toute fin d'émission, notre séquence venait avec un chiffre. Ils en ont chacun apporté un. Et donc ces propos répétés d'ailleurs du président François Hollande depuis quelques semaines, les derniers, nous avons bien redressé le pays depuis 4 ans, une formule qui a suscité quelques commentaires ironiques, voire indignés, et d'autres approbatifs. Alors bien sûr, la question d'abord du très très léger redressement de la situation de l'emploi, ces 600 000 chômeurs supplémentaires tout de même depuis mai 2012 qui viennent contrer les meilleurs chiffres de cette année 2017. Souhaitez-vous commencer par cela ou de manière plus générale, analyse conjoncture, Mathieu Plane, dont c'est le métier.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut regarder les choses de deux façons, c'est-à-dire soit en dynamique, soit en niveau. Et c'est vrai que on peut penser que ça va mieux, qu'on a quand même une situation d'accélération de la croissance, des marges qui sont plutôt élevées. On peut penser que 2016 sera quand même une année de reprise. Mais en même temps, on part de très très loin, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu finalement une dégradation extrêmement forte de l'activité, avec des conséquences sociales majeures depuis 2008. Et donc du coup, on peut penser qu'on a touché le fond, mais on part vraiment de très loin. Et donc ça va être extrêmement dur de remonter la pente, le tissu productif a été dégradé, on voit aussi des chômages de longue durée extrêmement marqués. Donc il faut pas oublier d'où on part, hein. Enfin vraiment là-dessus.
Et vous avez dit depuis 2008.
Depuis 2008, donc c'est pas lié uniquement à Hollande, hein. C'est vraiment la crise financière qui est le point de départ. Mmh. Le problème, c'est après la politique de François Hollande, je pense qu'elle a sous-estimé justement la situation économique du pays et a voulu régler un certain nombre de problèmes rapidement. Notamment avec un choc fiscal majeur. Il y a aussi la renégociation des traités européens qui ne s'est pas fait. Du coup, il n'a plus aucune marge de manœuvre. Et puis, avec des transferts fiscaux majeurs en direction des entreprises, ce qui a eu aussi des conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages, parce qu'il a bien fallu financer tout ça. Donc on voit que globalement, même si ça va mieux, même si ces politiques d'offre commencent à mordre, on voit que globalement, on est quand même passé à côté du redressement social du pays.
On reviendra tout à l'heure sur la fameuse inversion du chômage qui devient un peu un gimmick finalement, mais enfin c'est quand même important de voir s'il peut y parvenir. Vous avez toujours dit à l'OFCE, je le rappelle, parce que c'est une donnée qui nous donne un peu des éléments de comparaison, qu'à moins de 1,5% de croissance, le chômage ne pourrait pas s'inverser.
C'est bien oui, globalement, c'est-à-dire qu'en tendance, il faut à peu près un rythme de croissance de 1,5% pour commencer à faire baisser le chômage. Il ne faut pas oublier.
Commencer à le voir baisser.
Baisser, c'est-à-dire qu'on a aussi 140 000 actifs supplémentaires chaque année, il faut créer 140 000 emplois, il y a des gains de productivité dans l'économie, même s'ils ne sont pas très forts, c'est autour de 0,9. Donc il faut quand même un minimum de croissance pour faire baisser le chômage, ou alors sinon il faut effectivement mettre en place d'autres types de politiques avec du partage du travail, etc. Mais donc clairement, la croissance est quand même le moteur majeur pour créer des emplois et faire baisser le chômage.
On va y revenir encore. Agnès Benassi-Quéret, première remarque sur ce « nous avons bien redressé le pays depuis 4 ans ».
Alors, oula, ça c'est une grande... Sur le court terme, c'est sûr que quand on relâche un peu la pédale de frein en termes d'ajustement budgétaire, eh ben, on va un peu plus vite. Je pense que par rapport à ce qu'a dit Mathieu Plane tout à l'heure, il y a deux phases. Il y a eu la crise elle-même en 2009 et l'économie française a moins plongé que les autres. L'économie française résiste mieux, notamment la part importante de l'emploi public est quelque chose de favorable quand il s'agit de faire face à une crise. Et les politiques économiques ont été plutôt adaptées à ce moment-là, mis à part une petite erreur de politique monétaire au début, mais bon. Ensuite, il y a eu un redressement. Et là, les Européens, comme des fous, se sont ajustés les finances publiques, ce qui est normal. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a eu une deuxième chute de l'activité. Et là, on a continué à redresser comme des fous. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a eu quand même... on a perdu 2-3 ans... en termes de mauvais ajustements entre ajustement budgétaire et
là vous êtes sur quelle date
d'activité 12-13 voilà et que aujourd'hui on reprenne l'ajustement budgétaire me paraît sensé puisque la croissance repart.
Oui, on pourra prendre des comparaisons avec d'autres pays européens, ce que ne manquent pas de faire les opposants effectivement à ce programme-ci. Benjamin Coriat, première analyse aussi.
Oui, je vais faire entendre une musique un peu différente. Je pense d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on m'a demandé de venir. Trois problèmes. Premier problème, il a bien été indiqué par Mathieu Plane, c'est la manière dont la France et l'Europe, plus généralement, se sont liés les mains à travers le pacte de stabilité, en s'empêchant pratiquement toute politique budgétaire et après avoir mis la politique monétaire entre les mains de la BCE. Alors évidemment, ça donnait pas beaucoup de marge, d'où les piètres résultats des premières années. Premier problème. Deuxième problème, ça va un petit peu mieux, donc ça c'est pas contestable, je veux dire, encore que sur le chômage, comme on l'a dit, les A ont disparu, enfin un certain nombre de A ont disparu, mais pour réapparaître en B et C, donc je veux dire...
Vous parlez des catégories,
Oui, je parle des catégories.
A c'est la principale,
oui,
c'est-à-dire celle
A, c'est ceux qui n'ont pas travaillé du tout, B et C c'est ceux qui ont travaillé un peu. Bon, donc il faut attendre encore un peu pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Bon, ceci dit, donc je comme les autres, il faut bien constater qu'il y a un petit mieux et d'une certaine manière, autant s'en féliciter. La question c'est, est-ce que c'est dû à la politique qui a été suivie ou est-ce que c'est dû au bénéfice d'une conjoncture mondiale, des très bas taux d'intérêt, etc. Un taux de l'euro très faible. Voilà, ça c'est la question qu'on peut se poser. Enfin, troisièmement, et je vais très vite, est-ce que les deux grands marqueurs du quinquennat, à savoir d'une part le pacte de responsabilité, c'est-à-dire transfert unilatéral d'argent aux entreprises, et deuxièmement ce qui était l'accord national interprofessionnel qui est devenu maintenant la loi El Khomri, donc la remise en cause du code du travail, est-ce que c'est bien ça la bonne direction? Voilà. Voilà mes trois remarques.
Pacte de responsabilité tout de même, qui semble avoir permis de réduire quand même le coût du travail, de résorber peut-être l'écart avec le reste de l'Europe, Mathieu Plane.
Oui, bien sûr, en partie, ça a joué sur la différence
On rappelle les grandes lignes, déjà.
Oui, alors le pacte, d'abord il y a eu le CICE, qui a été quand même décidé fin 2012 suite au rapport Gallois, c'est 20 milliards de baisse en fait du coût du travail, un crédit d'impôt qui correspond à 6% de la masse salariale, les salaires compris entre 1 et 2,5 SMIC. Après, derrière début 2014, le président de la République annonce le pacte de responsabilité. Il y a à peu près 10 milliards de baisse de cotisations sociales patronales. auquel il faut rajouter encore à peu près entre 10 et 11 milliards de baisse de la fiscalité, que ce soit la surtaxe IS, la C3S, et même le taux d'IS là, qui devrait baisser en fin d'année. Donc on voit qu'on a quand même un transfert. Alors ce qu'il faut quand même rappeler, bon, semble important là-dedans, c'est qu'on ne peut pas dire que François Hollande n'a rien fait. C'est-à-dire que clairement, il a une politique économique en direction des entreprises comme on a rarement fait. C'est-à-dire 41 milliards transférés, c'est quand même beaucoup. En même temps, il a fait ce choix-là et en fait, c'est moi là, je suis d'accord avec Benjamin Courrier là-dessus, c'est qu'il n'a pas renégocié le pacte de stabilité, ce qui fait que finalement, il a dû à la fois respecter le redressement structurel des finances publiques avec un choc fiscal majeur. Alors, oublions pas qu'en 2013, le choc fiscal, c'est à peu près 30 milliards.
Faut le rappeler, oui.
Sur deux ans, si on prend 2012-2013, l'impact sur le pouvoir d'achat de ménage, rien lié à la hausse des prélèvements fiscaux et sociaux, c'est 800 euros par ménage. Donc c'est majeur. Donc il y a cette erreur, et ça je veux juste le rappeler, c'est que d'ailleurs pour le coup je fais un peu de pub à l'OFCE, c'est qu'en 2011 on avait sorti dans la revue de l'OFCE un article là-dessus sur les multiplicateurs budgétaires au cours du cycle, où on expliquait bien qu'en fonction des conditions du cycle, l'impact des politiques budgétaires n'était pas le même, la restriction budgétaire n'aurait pas le même impact. Et donc effectivement, le gouvernement, ce gouvernement, enfin le gouvernement précédent a sous-estimé l'impact de l'austérité sur la croissance, comme beaucoup en Europe, et rentrer dans une spirale récessive comme ça et déflationniste, dans lequel on a aujourd'hui encore du mal à sortir. Et donc il y a eu redressement des comptes publics très fort, 40 milliards transférés aux entreprises, et il fallait le financer tout ça. Et en fait, il y a quand même un effet, je veux dire, de redistribution dans ce cas-là, qui s'est fait par les ménages. Les ménages, aujourd'hui, ont vu leur fiscalité depuis 2010 augmenter de 66 milliards. Donc il y a un impact massif, avec des effets récessifs à court terme, et les politiques d'offres mettent du temps à monter en charge. Donc il ne faut pas s'étonner si, en fait, en 2013 et 2014, la France, et à partir même 2015, a finalement sous-performé par rapport à la moyenne de la zone euro.
Moyenne de la zone euro qui, semble-t-il, se porte mieux. On le voit encore dans... Alors, vous venez de parler justement des programmes d'austérité, mais certains les ont mieux supportés que d'autres, hein, apparemment.
Ou les ont fait avant,
comme vous venez de l'expliquer, Agnès Benassi-Quéret. Et puis, on va en venir aux atouts de la France, et notamment l'attractivité. C'est la toute dernière note du Conseil d'analyse économique qui rentre tout à fait dans notre sujet.
Alors, d'abord, peut-être un peu sur les politiques d'offre versus politiques de demande. Je pense que la France, quand même, il faut l'avoir en tête, a un problème d'offre. Sinon, elle n'aurait pas de déficit commercial récurrent. La réduction du déficit récente est quand même en grande partie...
Même si ça s'améliore un peu, voilà,
oui, mais en grande partie grâce à la baisse du prix du pétrole. Donc, je pense qu'il ne faut pas nier ça. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre sur l'offre et rien sur la demande, puisque pour avoir de la croissance, il faut de l'offre et de la demande. Donc, on est d'accord. Maintenant, il y a des choses qui ont un peu porté. Le redressement récent de l'investissement peut être mis en lien avec le redressement des marges des entreprises qui lui-même provient en partie, pas seulement, du CICE. Donc là, on a quand même un petit canal qui semble fonctionner. On a eu
le crédit impôt compétitivité d'emploi qui a donc amorcé toute cette démarche dont vous nous parlez.
Et avec un effet pétrole, alors, assez majeur aussi.
Et puis il y a d'autres choses. Et avec un effet pétrole dont on a bénéficié quand même.
Il y a des choses qui sont moins connues, comme la réduction de la C3S, qui est une taxe qui n'est pas très connue, mais qui est assez toxique parce qu'elle porte sur du brut, donc elle se multiplie le long de la chaîne de valeur, ou des choses comme ça. Mais l'offre, ce n'est pas seulement la baisse des coûts. Et là, il y a la partie formation dont on peut être un peu déçu. Ce qui s'est passé sur le plan de l'apprentissage ou la formation professionnelle tout au long de la vie.
Qui avait pourtant été annoncé.
On a l'impression
largement
que la moitié de la réforme a été faite, c'est-à-dire basculer sur les salariés, responsabiliser les salariés, leur offrir un compte personnel qui leur permette d'accumuler des droits et de les dépenser un peu comme ils veulent. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais l'autre moitié manque, c'est-à-dire la réforme de l'offre, là, pour le coup, où on a une industrie de la formation professionnelle qui est complètement opaque, éclatée, assez inefficace, pas évaluée, pas transparente. Et donc là, il y a vraiment un chantier qui est énorme pour... Et là, on a devant nous...
Qui reste encore
La bonne nouvelle, c'est qu'on a devant nous des réformes possibles pour gagner à la fois en productivité et en emploi.
Encore un mot, fonction publique, et là j'en viens au programme déjà annoncé, un certain, alors on ne va pas parler sur le plan politique ici, mais c'est très intéressant de voir ce qui est proposé face à cet échec supposé par les politiques de droite de cette politique Hollande. Et en tout premier lieu, le nombre de fonctionnaires, ça va de 300 000 à 200 000, en passant par 250. François Fillon, Bruno Le Maire, Alain Juppé l'ont clairement annoncé. Ça reste quand même le gros problème de votre point de vue, la fonction publique pléthorique, notamment dans les territoires, Benjamin Coria.
Moi, je voudrais dire un mot...
Puis Mathieu Plane, je vois que vous êtes
pour
aussi...
Pour faire le lien entre ce qu'a dit
tous les trois.
Agnès Benassi-Quéret et cette cette question des fonctionnaires. Il faut pas faire de caricature sur offre-demande. Hein. Ça veut dire que il n'y a pas une politique d'offre qui consiste à transférer de l'argent unilatéralement aux entreprises, une politique de demande qui consisterait à dépenser de l'argent public pour augmenter le revenu des ménages. Il y a plusieurs politiques d'offre possibles. Il y a plusieurs politiques d'offre possibles et en particulier une politique de l'offre qui consisterait à muscler l'industrie française qui est en complète débandade et en complète désindustrialisation à travers de l'action publique, de la dépense publique orientée vers la production. Alors que ça soit sous forme de commande publique ou que ça soit sous forme d'investissement public ou que ça soit sous forme de à travers les entreprises publiques. Et comment dire, ces 41 milliards donnés aux entreprises, on en aurait utilisé ne serait-ce qu'une partie pour dépenser directement pour de la création d'emplois, probablement les résultats seraient bien meilleurs aujourd'hui. Voilà, simplement je finis. Simplement pour dire que il y a plusieurs politiques d'offres possibles et je m'insurge contre l'idée que la politique d'offres, c'est donner de l'argent unilatéralement aux entreprises. Du coup, ça, j'ai fini. Mais du coup, ça a à voir avec la question des fonctionnaires. Il y a une série de domaines dans lesquels on va manquer de gens. Alors, y compris d'ailleurs pour tout ce qui concerne les douanes, le contrôle fiscal, etc. Je ne crois pas qu'il serait de bonne politique aujourd'hui de désarmer le ministère des Finances en ce qui concerne le contrôle fiscal avec les trous noirs qu'on a sur les paradis fiscaux aujourd'hui.
Baisse des fonctionnaires. Peut-être qu'Agnès Benassi voulait répondre sur cette débat que vous avez sur sur l'offre rapidement.
Je crois qu'on est d'accord. Ça, la politique d'offre, c'est pas donner de l'argent aux entreprises. Et donc justement,
c'est ce
les aides.
Qui a été fait,
oui, mais face à, il y a de plusieurs manières d'en donner. Et les aides aux entreprises ciblées sur des secteurs, etc. On peut quand même être assez sceptique sur cette manière de faire. Quant à la commande publique, il y a eu une réforme justement. Il y a une réforme cette année de la commande publique avec une énorme simplification, dématérialisation de la commande publique qui va permettre aux PME d'être plus souvent sur les marchés publics. Donc je pense que là, on est plutôt dans la bonne direction. Maintenant, sur les fonctionnaires, je pense qu'il n'y a pas d'idéologie à avoir sur les fonctionnaires et sur les dépenses publiques en général. La théorie économique ne dit pas qu'il faut 50, 54 ou 44% ou 30% du PIB de dépenses publiques. Mais il faut prendre le problème par l'autre bout, c'est-à-dire la pression fiscale. Il se trouve que les Français ne veulent pas payer plus d'impôts. Bon, ben voilà, c'est une donnée. Et donc, il faut ajuster les dépenses par rapport à ce qui est raisonnable de prélever en termes d'impôts et de contributions sociales. Et c'est cette adaptation-là qui reste à faire dans les années à venir.
Mathieu Plane.
Oui, non, sur la question de la dépense publique, je pense qu'il faut rappeler la singularité du modèle français. C'est-à-dire que, clairement, on a une dépense publique en point de PIB qui est plus élevée que nos voisins, ça c'est clair, mais qui en partie s'explique par un modèle social différent. C'est-à-dire que la retraite sont des retraites publiques, la santé est essentiellement publique. On a une politique familiale assez généreuse, mais on a aussi quand même beaucoup d'enfants, donc besoin aussi de plus d'infrastructures. On a un effort de défense aussi qui est plus important que beaucoup de pays, donc on peut comprendre.
Rappeler aussi que, d'une certaine manière, nous avons mieux supporté la crise dans un grand nombre de couches sociales défavorisées dans notre pays, grâce précisément à la dépense publique.
Vous avez raison, c'est-à-dire que c'est
un point qu'il ne fallait pas oublier.
Juste un mot, mais dans l'esprit de ce que disait Mathieu, je vais lui redonner la parole. Une partie de notre dépense publique, c'est de l'argent qui est prélevé pour être redistribué immédiatement. Donc je veux dire, il y a un effet trompe-l'œil là. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est important, c'est que du coup, on résiste mieux au choc. Alors c'est vrai que par contre, on a des phénomènes un peu de lenteur dans la reprise, quoi. Mais donc on est moins cyclique que les autres. Mais ça aussi, c'est plutôt finalement une bonne chose dans la stabilité des modèles économiques. Après, sur la dépense publique, stricto sensu, c'est-à-dire quand on regarde le poids de la dépense liée aux fonctionnaires, c'est 20% en fait de la dépense publique. Donc 80% c'est des transferts, soit aux ménages, soit aux entreprises quand même. La dépense publique, ça va pas sur la lune, ça sert à quelque chose, soit c'est des subventions d'entreprises, soit ça finance des transferts sociaux direction des ménages. Donc il faut bien voir que là, il faut voir que quand on baisse la dépense publique, il y a quand même un impact. Et puis après, le point important, c'est qu'il faut rappeler que dans la fonction publique d'État, 80% des fonctionnaires sont soit dans l'éducation, donc l'enseignement, soit c'est la défense, donc les militaires, soit c'est la police. Et même si vous rajoutez la justice, et après vous avez la fonction publique liée aux hôpitaux, c'est à peu près 1 million de personnes supplémentaires. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit on va réduire beaucoup la dépense publique en baissant le nombre de fonctionnaires, en disant en même temps on sanctuarise le socle républicain de ces postes-là, je vois pas comment on fait. Sachant que après, en plus, ces postes-là, quand vous regardez les moyennes européennes, et notamment dans l'éducation nationale, ce sont pas des gens qui sont bien payés, ils sont même moins bien payés que la moyenne des autres pays, notamment si vous regardez les professeurs des écoles dans le primaire. Quoi. Donc il y a quand même des vraies questions à avoir sur l'attractivité de ces métiers.
Un point qu'il faudrait au contraire corriger. Ouais.
Voilà. Mmh. Et plutôt que de dire, en fait, on en a trop. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a eu quand même un dégraissage assez fort. Et finalement, on verra que si on veut baisser la dépense publique, c'est plutôt remettre en cause notre modèle social. Mais ça, c'est un vrai choix de société.
Agnès Benassica.
Alors, deux choses. D'abord, sur les fonctionnaires, bon, je pense qu'effectivement, c'est pas forcément le bon point de départ pour s'attaquer à la dépense publique. Quoique, quand même, dans les administrations locales, l'emploi public a beaucoup augmenté. Je pense que, par contre, sur les transferts, c'est pas... S'attaquer à l'efficacité des transferts sociaux, ce n'est pas remettre en cause notre modèle social. Je vais prendre deux exemples. La santé. Nous avons aujourd'hui un système avec l'assurance santé plus les mutuelles. Les deux sont devenus obligatoires. Pourquoi on en a deux ? Mystère. Deuxième chose, les retraites. On a un régime général et on a un régime complémentaire. Les deux sont obligatoires. Pourquoi en avons-nous deux ? Mystère. Donc, sur ces deux énormes masses de dépenses publiques, on voit qu'on a des gains d'efficacité qui se chiffrent à plusieurs milliards de rationalisation. Et sans du tout toucher à la protection sociale. C'est simplement l'efficacité du système et la transparence aussi. Et là, ça m'amène à mon sujet d'attractivité.
Dernière note, je l'ai dit, du Conseil d'analyse économique.
Oui. Vous avez un cadre qui arrive de l'étranger hein, pour s'occuper d'un centre de décision, puisque cette note du Conseil d'analyse économique, donc, qui vient de sortir, ça s'intéresse au centre de décision. Ce n'est pas l'attractivité en général, hein, c'est les centres de décision, c'est-à-dire c'est l'endroit
dans
les entreprises où on prend les décisions stratégiques de R&D, de marketing, de stratégie, etc. Et là, donc le cadre, il arrive et un mauvais moment de l'entretien, c'est quand on va quand il va poser la question du régime de retraite auquel il a droit, lui qui va rester quelques années en France et ensuite partir à l'étranger. Bon, eh bien, donc on voit bien que là, on a un handicap majeur dans la scène internationale, mais aussi on a des
avantages aussi. Votre note n'est pas négative.
Hein. Et c'est pour ça que il faut absolument agir sur ces facteurs négatifs. Parce
des avantages sur les prestations, sur justement tous les.
Donc on s'aperçoit que pour la localisation des centres de décision, donc il y a une concurrence européenne pour cette localisation et Paris, l'Île-de-France ont un certain nombre d'avantages. D'abord, c'est la concentration. Beaucoup de populations et beaucoup de populations diplômées. Et donc ça, c'est un gros avantage pour la localisation.
Très qualifié.
Deuxièmement, on aura Roissy, Charles de Gaulle, qui est un grand aéroport, qui malheureusement on pourrait améliorer l'accès, exactement. Malheureusement, perd du terrain par rapport à Londres, mais c'est un atout sur lequel il faut investir. Voilà. Et on pourrait aussi investir, il y a des choses toutes bêtes, hein, comme les lycées internationaux, qui sont en sous-capacité en Île-de-France par rapport à d'autres capitales européennes. Mais donc on voit que c'est pas hors de portée. Alors je vais pas vous dire qu'on a un avantage en termes de fiscalité. Hein. L'impôt sur le revenu est un problème.
Il y a évidemment la question de la fiscalité.
Mais ça veut pas dire qu'il faut forcément le diminuer. Il y a sans doute dans les années à venir, il va falloir avoir une concertation avec nos partenaires européens sur la taxation des hauts revenus parce que ça va être un sujet montant quand on voit le débat aux États-Unis. Hein, le rejet de la mondialisation, il est dû à quoi ? En partie, il est dû au fait que les Américains n'ont pas su redistribuer les gains de la mondialisation. Et il ne faut pas qu'il nous arrive la même chose en Europe.
Oui, creusement des inégalités et le reste. Les deux dernières remarques, vous avez parlé de la retraite, 65 ans annoncée par beaucoup des candidats à la primaire de droite. Ça vous paraît une solution majeure ? Alain Juppé se dit convaincu que ça ne touchera ni l'emploi des seniors ni l'emploi des jeunes, en tout cas que ça ne leur portera pas préjudice.
Non, mais
très vite, Benjamin
Coriat. Si vous voulez, je ne crois pas du
tout. Puis Mathieu Plane.
Je ne crois pas du tout qu'il y ait un grand avenir derrière l'ensemble de ces mesures, malheureusement. Si je peux me permettre, moi je dirais que l'aspect le plus négatif, si je peux dire, du bilan de François Hollande, c'est que, ayant lui-même opté pour une politique d'abaissement des coûts du travail, d'abaissement de la dépense publique et d'attaque du code du travail, et n'ayant que des résultats extrêmement moyens, il ouvre une voie gigantesque à ceux qui disent « oui, c'est bien ça, mais il en faut trois fois plus ». Voilà. Et donc, personnellement, hein, je pense que l'aspect... Alors, c'est de l'économie politique, si vous voulez. N'ayant pas essayé de trouver une voie alternative et ayant simplement ouvert cette possibilité-là, la droite s'engouffre derrière. Et ça, évidemment, je pense que la France va le payer assez cher dans les années qui viennent.
Et elle parle très clairement de programme libéral.
Hein.
Le mot n'est pas tabou, il est au contraire assumé.
Il a été en grande partie détabouisé par le président et son premier ministre.
Mathieu Plane,
juste là-dessus. Trois petits points. Effectivement, alors, pour revenir juste très vite sur ce qu'a dit Agnès Benassi-Carré, l'idée qu'il faille faire des économies ou qu'il y ait des possibilités d'économie, je ne suis pas du tout contre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi rationaliser un certain nombre de dépenses publiques. Je dis juste que les montants n'ont rien à voir avec ce qui est annoncé. Donc ça veut dire que si on veut vraiment aller Aujourd'hui, en tout cas, un certain nombre, on a fait 50 milliards d'économies sous le pacte de responsabilité avec François Hollande. Aujourd'hui, effectivement, il y a une surenchère de ce côté-là. Donc ça veut dire que ça ne sera pas juste des simples rationalisations sur la dépense publique. Le deuxième point, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, le programme de des principaux candidats à la primaire de droite, en fait, finalement, s'inscrit dans ce que a commencé à faire François Hollande, mais en plus vite et en plus fort. Et on le voit bien aussi sur la durée légale, notamment le report à 65 ans. Alors effectivement, ça génère des économies sur les dépenses de retraite très vite. Ouais. Sauf que ça a un autre impact, c'est que ça crée un choc de population active majeure. On le voit d'ailleurs, il commence à avoir des chiffres à partir de ce qui s'est fait en 2010 avec le report de 60 à 62 ans. En gros, la répartition aujourd'hui, c'est que ça augmente le taux d'activité des seniors, mais qu'il y en a deux tiers qui restent dans l'emploi et un tiers dans le chômage. Donc il y a un effet quand même sur le chômage, en tout cas à court et moyen terme, qui existe. Je veux dire, de toute façon, l'économie ne peut pas absorber des chocs d'offres comme ça. Il y a des effets comme ça de moyen terme. Donc il y a quand même des arbitrages à avoir et qui vont se poser dans le débat public entre d'abord comment on fait pour redresser un certain nombre de comptes publics, par quel mécanisme, et puis quelles sont les conséquences de tout ça.
Bon, oui, Agnès Benassi Carrère, dernier mot.
Sur l'aspect réforme de retraite, c'est un choc tout à fait lissé dans le temps, hein, puisqu'il s'agit de génération.
Bah, c'est quand même 4 mois, enfin, ce que propose un GEPA, c'est 4 mois par an.
Et reculer hein. L'âge de la retraite, on l'a vu.
4 mois par an sur une.
Oui. On l'a vu dans les réformes passées, reculer l'âge de la retraite, ça fait monter le taux d'emploi des seniors.
Et le taux de chômage aussi.
Ça, bah, il est le plus bas, il est beaucoup plus bas que celui des jeunes.
Sur le taux de chômage, mais
il est faible, le taux d'emploi des seniors.
Non, mais enfin, là, la donnée fondamentale qui est devant nous, c'est une accumulation de gens qui vont disposer de retraites catastrophiques, parce qu'ils ne pourront jamais travailler jusqu'à 65 ans. Donc, d'une certaine manière, prolonger l'âge du départ à la retraite, pourquoi pas, à condition de garantir l'emploi permettant d'avoir ces années de cotisation. Ce n'est pas le cas.
Eh bien, ça nous promet encore quelques beaux débats. Vous serez invités à y revenir. Merci pour ce bilan hein, rapide et le tout premier de la présidence Hollande, des gouvernements du président Hollande. Et déjà un petit examen de ce qui se profile du côté de ces challengers. On va très vite vous demander à chacun quel chiffre vous avez apporté. Qui veut commencer? C'est notre petite séquence, hors notre sujet, je l'espère d'ailleurs. Votre chiffre, Agnès Benassi Carrère?
Moi, c'est zéro.
Très bien.
Zéro, c'est le taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation entre avril 2014 et avril 2016, donc sur 2 ans. Donc, en France. Donc, disparition de l'inflation. Et ça, ça veut dire qu'on a une disparition de ce qu'on appelle l'illusion monétaire. C'est-à-dire, si on vous dit que le livret A est rémunéré à 0,75%, ouais. Ça vous paraît faible. Mais en fait, il n'y a pas d'entourloupe. Ce sera vraiment 0,75%. Si vous vous endettez à 2%, il n'y a pas d'entourloupe non plus. C'est vraiment 2%. Et cette disparition de l'illusion monétaire est mal comprise, ce qui est un débat notamment en Allemagne sur la rémunération faible et l'atteinte aux petits épargnants. Et il faut bien avoir en tête que la disparition de l'inflation doit être complètement prise en compte quand on aborde ce débat.
Merci. Zéro donc pour Agnès Benassi Carrère. Votre chiffre, Benjamin Coriat?
Alors moi, mon chiffre, c'est 11. Et 11, c'est le nombre d'États de l'Union européenne qui se sont opposés à la directive sur les travailleurs détachés qui était en train de préparer la Commission. Alors en fait, c'est l'ensemble des pays du bloc de l'Est, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, la Croatie, etc., auxquels, de manière surprenante, s'est joint le Danemark pour dire non, on ne touche pas aux travailleurs détachés. Or, les travailleurs détachés, c'est une situation de concurrence par le bas, hein, par laquelle des travailleurs qui viennent de pays, notamment de l'Europe de l'Est, sont payés des salaires de misère, en général au minimum. Les prestations sociales sont celles des pays d'origine. Bon, bref, l'Union européenne s'était engagée à faire un peu un coup de balai hein, pour éviter cette concurrence par le bas. Et on voit que les pays de l'Est, après avoir mis fin aux accords de Schengen, s'opposent à cette mise à niveau des normes sociales.
Benjamin Coriat, et votre chiffre, Mathieu Plane, pour conclure.
Alors moi j'ai deux chiffres, c'est entre 1 et 2, en gros. C'est simple, c'est quand vous regardez les réformes des retraites qui sont faites dans les autres pays, c'est la montée en charge du report de l'âge légal, on vient d'en parler. C'est-à-dire que dans les pays, par exemple les États-Unis, quand ils ont réformé leurs retraites, le report de l'âge légal, c'était une montée en charge de 1 mois par an. Dans d'autres pays, le Royaume-Uni, c'est 2 mois. C'est entre 1 et 2. Ce qui s'est passé avec la réforme de 2010, en fait, ça a été des reports de 5 mois. par an. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des remontées en charge qui sont très fortes. C'est-à-dire que dans aucun pays, on a eu des reports de l'âge légal qui se font aussi vite. C'est-à-dire qu'on peut reporter l'âge légal, mais le faire très vite, ça aura sûrement des conséquences assez difficiles à gérer en termes justement d'emploi des seniors.
Merci à tous les trois, Mathieu Plane que l'on vient d'entendre pour l'OFCE, Agnès Benassi-Kéré, conseil d'analyse économique, et Benjamin Coriat, économiste atterré et professeur à Paris 13. Nous nous retrouvons bien sûr samedi prochain. Merci à notre petite équipe. Marie Chartron, réalisée aujourd'hui avec Pierre Faucillon, merci à eux. Laurence Genepin, bien sûr, préparation, documentation, allez retrouver tous les sites, tous les textes que nous vous proposons sur notre site, sur notre compte Twitter aussi, dont s'occupe avec beaucoup d'efficacité Iman Baïz, notre stagiaire, que l'on remercie aussi. Très bonne journée à tous.